RCF. La lecture est le moyen dont nous disposons pour devenir présents par la pensée à tous les points de l'espace et du temps où d'autres que nous ont été. Cette pensée du philosophe Louis Lavelle nous ouvre un chemin pour partir aujourd'hui à la découverte de la Chine ancienne, et tout particulièrement du taoïsme dès le Moyen-Âge. Quelle est cette voie empruntée par la spiritualité chinoise? Quel sens donner à la méditation, à la prière, à la contemplation de la nature? Comment décrypter cette tradition des exercices spirituels propres à la Chine ancienne? Et comment peut-elle aussi nous faire réfléchir sur nos propres traditions? J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Olivier Boutonnet, sinologue, docteur en histoire des religions à l'École pratique des hautes études à Paris. Vous menez des recherches sur l'histoire du taoïsme et des religiosités lettrées dans la Chine médiévale. Olivier Boutonnet, bonjour.
Bonjour Sarah Brunel.
Alors bienvenue dans Dialogue. Vous venez de publier Le char de nuages, érémitisme et randonnée céleste chez Wu Yun, taoïste du 8e siècle, dans la très belle maison d'édition des Belles Lettres. Vous êtes un érudit sur la Chine ancienne, mais je vais commencer en vous posant une question très simple et très humble pour lancer cette émission. Vous êtes spécialiste du taoïsme. Pouvez-vous nous définir brièvement le taoïsme ?
Alors c'est précisément une question complexe que la définition du taoïsme, mais pour simplifier et pour résumer à ce qui nous concerne, le taoïsme c'est l'ensemble des phénomènes mystiques et religieux qui s'articulent autour du canon taoïste. Autrement dit, c'est une communauté religieuse qui partage un même corpus et un même projet sotériologique qui est le changement des temps ontologiques, le salut, c'est-à-dire, pour dire les choses simplement, le passage à l'immortalité.
Et taoïsme s'est formé donc sur Tao, qui signifie...
Formé sur Tao, parce qu'en fait, la première classification des écoles philosophiques chinoises date de la dynastie Han, début de notre ère. Et parmi les écoles identifiées, on a une école de la voie, Tao Jia, Tao signifiant la voie, dans laquelle on va trouver donc des textes. Mais cette classification est antérieure à la constitution du taoïsme, et donc certains sinologues parlent pour cela de proto-taoïsme.
De proto-taoïsme. Donc le taoïsme, vous nous invitez à le découvrir avec une figure dans votre ouvrage, le moine taoïste Wu Yun, qui a vécu au 8e siècle, moine, poète, ermite. Votre livre commence merveilleusement par votre arrivée en Chine, dans la province de Zhejiang, où vécu ce moine Wu Yun, un itinéraire qui vous conduit à la chambre de pierre. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter, faire voir à nos auditeurs ce cheminement?
Oui, alors il s'agissait de marcher dans les traces de Wu Yun, d'essayer de retracer son itinéraire et de retrouver les lieux qui ont été importants pour lui. Cette chambre de pierre est une grotte dans laquelle il aurait entreposé ses ouvrages. Il aurait vécu sur cette montagne, qui en fait est une grande colline à la fin de sa vie. Les flancs verdoyants de cette belle colline l'ont abrité au crépuscule de son existence. Et donc il entreposait là ses livres, et d'après ce que l'on sait de la préface qui accompagne ses écrits, laquelle préface a été composée par un érudit taoïste sur demande du plus proche disciple de Wu Yun, eh bien Wu Yun aurait été inhumé dans cette grotte, et il appelait cette grotte la chambre de pierre. Alors depuis le 8e siècle, de la terre s'est accumulée, et probablement faudrait-il creuser plusieurs mètres avant de le trouver, s'il est encore là. Voilà, alors donc c'est un petit village, le village de Gongli-Tsun, qui se trouve à peu près à 37 km à l'ouest de Hangzhou, dans la province du Zhejiang. Et puis c'est un village tout en longueur, comme ça. Et donc à partir des informations trouvées, notamment dans une monographie locale, eh bien on arrive à trouver cette petite grotte qui se trouve derrière une ferme, à l'orée du village.
Alors, Wu Yun, le maître qui honore le mystère, est un lettré taoïste de renom qui se voue à la quête de l'immortalité. Il a vécu retiré du monde, retiré, c'est-à-dire
partiellement retiré, parce que il a été invité à deux reprises au palais impérial, il a été nommé académicien, il était destiné à une carrière de fonctionnaire, qu'il a décliné probablement vers ses 20 ans, pour se retirer, cultiver la voie. Mais on ne se retire jamais vraiment totalement. En somme, l'essentiel de sa vie correspond plutôt à ce qu'on pourrait appeler une forme d'idiorythmie, pour reprendre l'expression de Barthes, qu'il a lui-même emprunté à la carrière.
C'est-à-dire une
C'est-à-dire un semi-érémitisme, sans aucune rigidité ni radicalité du retrait, une respiration. Tantôt vous entrez dans le monde, tantôt vous en sortez, selon vos envies, vos besoins. Donc c'est un mode de vie qui favorise les échanges, les conversions. Et forcément, ça pose la question de la solitude, qu'on pourra peut-être définir, si vous voulez.
Alors, c'est un moine lettré, ça veut dire qu'il a reçu une éducation, sans doute très, très exigeante,
oui.
Très approfondie.
Il était fils de préfet, petit-fils aussi de fonctionnaire. Au regard du statut administratif de son père, il a eu accès aux meilleures écoles, il est entré au grand collège. On y entre entre 15 et 20 ans pour à peu près une dizaine d'années d'études qui vous destinent donc au métier de fonctionnaire. Donc vous passez d'abord des examens de doctorat, et ensuite vous pouvez passer des concours administratifs. Il a passé les examens, il a échoué l'un d'entre eux, le plus élevé, et il s'est retiré à partir de cela. Alors évidemment, ses biographes, pour ne pas écorner sa réputation, on dit qu'il avait d'autres aspirations et que de subir les vicissitudes de la vie mondaine, et donc il s'est retiré pour cultiver la voie.
Et il a écrit.
Et il a écrit, oui, il a beaucoup écrit.
Quel type d'écrit, oui, des poèmes,
des poèmes et des traités. Il nous reste trois grands traités alchimique, un manuel en 33 chapitres qu'il a remis à l'empereur en 754, qui est vraiment le parfait catéchisme du taoïsme de l'époque, une dizaine de compositions en prose rimée et rythmée, et puis un peu plus de 120 poèmes. C'est ce qu'il reste aujourd'hui, plus des inscriptions épigraphiques. C'est ce qu'il reste de lui, mais ça représente sans doute un peu moins de la moitié de ce qu'il devait y avoir initialement.
Alors, le taoïsme au 8e siècle, quel ancrage a-t-il dans cet espace chinois, en particulier avec le bouddhisme, qui est
oui.
La religion officielle,
enfin, non, l'orthodoxie, c'est le canon confucéen,
oui.
Depuis la dynastie Han au début de notre ère. Mais en fait, effectivement, le bouddhisme pénètre en Chine, on en est à peu près sûr, au début de notre ère. Avec sa communauté, son corpus, il va se développer, le clergé va s'enrichir, il va devenir de plus en plus influent, différentes écoles bouddhiques vont naître, dont des écoles totalement chinoises. Sous les Tang, ce sera notamment l'apogée du courant de Shan, qui est au carrefour du bouddhisme, de certains courants bouddhiques et de certains courants purement chinois, notamment la tradition de Zhuangzi. Et donc le taoïsme, lui aussi, va se constituer à partir au milieu du deuxième siècle, et va se constituer de manière de plus en plus aboutie, complexe. Différentes écoles vont coexister jusqu'à être intégrées à peu près au VIe siècle dans un système verticale, dans une même économie sacerdotale. Et en fait, évidemment, le taoïsme, le bouddhisme vont se disputer le patronage impérial, les faveurs de l'empereur. Et donc, on va assister à partir du 4e siècle, et puis sous les Tang, beaucoup, à des disputations, des controverses entre ces différentes doctrines institutionnalisées. Alors, des controverses parfois formalistes, parfois portant sur le dogme, parfois portant sur la légitimité de celle-ci ou de celle-là. Les empereurs vont procéder à des classifications de ces doctrines. Et donc, parallèlement à cela, il faut aussi imaginer toutes les religions populaires, tous les cultes locaux.
Il y a une richesse, donc, on va dire, de diverses confessions.
Très importante. Et là, quand on parle du bouddhisme et du taoïsme, nonobstant toute la variété de leurs courants, on parle des grandes religions institutionnalisées.
Alors, Wu Yun est ordonné en 745, il devient prêtre taoïste, rattaché au temple de Songyang, sur cette montagne sacrée. Vous dites, le retrait contemplatif, la poésie visionnaire, et les exercices spirituels en sont la meilleure illustration.
En fait, en sont la meilleure illustration d'une querelle de spécialistes. Parce qu'en fait, si vous voulez, la première forme organisée du taoïsme apparaît donc, comme je le disais tout à l'heure, à la moitié du deuxième siècle. Pour faire simple, c'est l'église du maître céleste. Et puis, dans la deuxième moitié du quatrième siècle, vont émerger d'autres courants. Parmi ceux-là figure l'école, la tradition Shangqing, la pureté supérieure, qui est au cœur de l'ouvrage. Et donc ces différents courants vont être réunis dans un même système sacerdotal, avec la tradition du maître céleste en charge de la titulature, de la liturgie, des rituels, donc au fondement de ce système-là, et le Shangqing, la pureté supérieure, au sommet de ce système-là.
La pureté supérieure, c'est-à-dire?
La pureté supérieure, donc ce courant Shanxin, cette école née au IVe siècle, la pureté supérieure, parce qu'en fait la pureté supérieure est un des cieux où évoluent les ermites accomplis, les authentiques. Et justement, l'un des apports du Shanxin était d'ouvrir une voie vers une plus grande introspection qui permettait l'accès à ce ciel de la pureté supérieure.
Dialogue, Sarah Brunel.
Olivier Boutonnet, nous écoutions la chanteuse Xi Wang qui interprétait une chanson marchant sur le sentier de la vie. Alors nous évoquons l'œuvre du moine et poète Wu Yun et dans le deuxième chapitre de votre livre, vous analysez la célébration du retrait. En quoi consistait la vie érémitique de Wu Yun ?
Alors, Wu Yun n'a rien inventé. Il s'inscrit lui-même dans une longue tradition d'érémitisme. Et en revanche, son œuvre nous permet de comprendre, de déceler une voie supplémentaire de la pratique érémitique que l'on n'avait pas soupçonné réellement auparavant. Ça mérite juste de esquisser le contexte, si vous voulez. Les tendances dominantes dans la constitution historique du phénomène érémitique en Chine s'articulent autour d'une phrase du livre des Mutations, à l'aune de deux interprétations différentes. Cette phrase du livre des Mutations nous dit Qun se zhi dao, huo chu, huo chu, huo mo, huo yu, et vous avez entendu la répétition du huo, qui exprime donc un balancement. C'est un pronom, et à cette époque-là, on va dire...
Quel est le sens de ce que vous voulez
justement,
dire?
Justement, voilà. C'est parce que le sens que l'on donne à ce pronom va radicalement changer la donne de la manière d'appréhender l'érémitisme en Chine. Et donc, si vous voulez, depuis les printemps et automnes, on va dire 7e siècle avant notre ère, jusqu'au 3e siècle de notre ère, l'interprétation dominante de ce roi, c'était tantôt. Et donc, la phrase signifiait « La voie de l'homme de bien consistait à tantôt sortir, tantôt se cacher, tantôt se taire, tantôt s'exprimer. » C'est-à-dire qu'on avait là l'idée d'une intelligence de situation qui permettait de pratiquer un retrait circonstanciel, adapté aux circonstances. Et puis pour des raisons historiques, notamment parce qu'il y a des bouleversements sociopolitiques au IIIe siècle, en fait, les lettrés vont se tourner davantage vers l'homme intérieur et on va avoir de nouveaux courants philosophiques qui vont émerger. Et cette même phrase va avoir une autre interprétation qui va s'imposer, toujours autour de ce pronom, qui ne signifiera plus tantôt, tantôt, c'est la merveille de la souplesse syntaxique du chinois classique, mais qui va signifier pour les uns, pour les autres. Et donc cette même phrase devient la voie de l'honnête homme, consiste pour les uns à sortir, pour les autres à se cacher, pour les uns à se taire, pour les autres à s'exprimer. Donc nous passons là d'un retrait circonstanciel à un retrait existentiel. Et donc Wu Yun, lui, va, en fait, grâce à son œuvre, on va s'apercevoir que il existe une troisième voie qui va concilier ces deux modalités du retrait, circonstanciel et existentiel, et à laquelle on va ajouter d'autres choses, qui est le rapport de la destinée individuelle par rapport à la destinée collective. Et donc, toute l'œuvre de Wu Yun va conjuguer tout ça. Et sa particularité à lui également, c'est qu'il s'inscrit dans une démarche spirituelle du retrait, un retrait contemplatif, mais qui est en fait une des modalités du retrait spirituel. Donc, au carrefour du retrait existentiel, circonstanciel, et spirituel.
Alors oui, retrait circonstanciel, on pourrait dire un retrait finalement alternatif, une vie qui mène, qui combine la vie mondaine et la vie monastique ou érémitique. Et vous dites, on passe à un retrait existentiel, donc c'est-à-dire le choix de la vie retirée, de la vie érémitique. Mais quel est le sens ou le but de ce retrait ? Pourquoi ?
Et il répondait à plusieurs raisons. Une particularité chinoise, c'est qu'on peut y trouver une raison politique. La dissidence était aussi une des raisons du retrait. Pour ce qui concerne Huyn, le retrait se pratique de manière féconde à condition de comprendre les leçons de l'histoire. Comprendre les leçons de l'histoire, c'est-à-dire savoir ce qui relève de la destinée collective et savoir ce qui relève de sa propre destinée, sur laquelle on peut agir. S'imaginer aller à l'encontre de la destinée collective revient à vouloir endiguer un fleuve puissant avec des mottes de terre, dit-il. Et donc, tirer les leçons de l'histoire, comprendre ce que révèle la destinée collective, comment on situe sa destinée individuelle par rapport à sa destinée collective. Et puis, évidemment, Huyn, lui, s'était inscrit dans une démarche religieuse, et à ce moment-là, le retrait spirituel est une condition sine qua non pour parvenir à l'accomplissement spirituel, c'est-à-dire atteindre pour lui l'état d'authentique.
Alors si j'essaie de faire un pont avec l'histoire de l'Occident, par exemple l'histoire du christianisme, avec la pratique des exercices spirituels, qui est par exemple au centre de la spiritualité ignatienne, quelles sont les pratiques spirituelles propres à cette vie érémitique? Comment cette religiosité est-elle ancrée dans la vie, dans le quotidien?
Il y a beaucoup de caractéristiques pour définir la solitude qui sont partagées de la Grèce à la Chine, en passant par l'Orient chrétien, et puis de l'Antiquité au Moyen-Âge. Mais il y a une singularité propre au monde chinois. Il y a une véritable différence qui est la place du corps et la manière dont l'anachorète se positionne dans son environnement. Et alors, évidemment, au risque de prendre des raccourcis sur la différence entre le dualisme et la dualité. Je renvoie au livre de Bachet sur les dualités non dualistes dans le Moyen-Âge chrétien, notamment 12e, 13e siècle. Mais disons qu'en Chine, il n'y a pas de dualité primordiale, fondamentale entre le sensible et l'intelligible. Alors cette unité foncière n'exclut pas des catégories fonctionnelles. Néanmoins, Huyn inscrit sa compréhension des phénomènes du vivant dans une origine commune propice à des variations de matérialité. Une fois que l'on dit ça, eh bien forcément, on comprend que la place du corps est différente et que le corps va être beaucoup plus investi. Et là où les pères du désert se retirent dans les contrées inhospitalières de la Thébaïde pour éprouver l'amour mystique et puis aussi pour mourir au monde de la chair pour le salut de l'âme, l'ermite chinois, pas forcément taoïste, lui va se retirer dans des coins plutôt sympathiques, accueillants, en général près d'un cours d'eau, au pied d'une colline verdoyante. Et là, il va, au regard des principes analogiques de correspondance entre le macrocosme et les microcosmes, il va essayer de recréer en lui, en lui-même, toute l'harmonie organique qu'il va pénétrer en contemplant la montagne, en contemplant la forêt. Et il va créer une forme de résonance pour justement cultiver cette harmonie en lui-même.
Et alors comment c'est possible de cultiver cette résonance? Est-ce que ça suppose des pratiques corporelles?
Il y a un sinologue a récemment établi une distinction intéressante entre les pratiques passives et les pratiques proactives. Les pratiques passives sont celles qui consistent à se défaire de la peur de la mort, à se détacher des entraves affectives, tandis que les pratiques proactive vise à la transformation de l'être, et notamment par les procédés de méditation visionnaire. Et donc, si vous voulez, vous avez deux étapes. La première étape, c'est justement de se défaire de toutes ces entraves affectives pour créer les conditions optimales pour ensuite passer aux techniques proactives qui nécessitent cet état de quiétude comme une condition sine qua non. Et alors ensuite, ces pratiques, c'est tout l'enjeu du troisième chapitre du livre, ce seront des pratiques qui visent à sublimer la corporéité de l'adepte par des pratiques de méditation, par des pratiques de visualisation extrêmement codifiées, extrêmement complexes.
Alors il y a aussi ce retrait, cet ermitage de Huyn dans cet espace qu'est la montagne, vous évoquez cela, et ce côté effectivement vivant, peut-être un peu luxuriant, c'est toute une symbolique aussi.
Oui, alors en fait, ça on le découvre quand on va sur place, parce que quand on lit les textes, Ils avaient tendance, ces ermites-là, quand même, à se dépeindre comme des héros de l'érémitisme vivant sur des pics inaccessibles dans des conditions extrêmement difficiles. Et on imagine, quand on reste dans la bibliothèque sur les textes, on les imagine vraiment au sommet de pics élevés, sans rien autour. Et puis, quand on va sur place et qu'on arrive à retrouver leurs traces, on s'aperçoit que c'était pas du tout ça. Et alors, ce point est intéressant parce qu'en fait, Houyin permet aussi de résoudre un malentendu. Jusqu'à présent, on faisait distinction entre le faux retrait, le retrait fin, et puis le véritable retrait, c'est-à-dire le faux retrait, celui de l'idiorhythmie, et puis le vrai retrait, celui de l'ermite solitaire. Alors qu'en réalité, on s'aperçoit que dans une même pratique érémitique, on va avoir des degrés différents. On va avoir l'essentiel de l'existence qui va s'articuler autour d'un semi-érémitisme, fait de respiration, d'entrée et de sortie du monde. Et puis, pour des raisons spirituelles et religieuses, des phases de cette existence-là qui vont être consacrées à des retraites beaucoup plus austères, beaucoup plus exigeantes, dans une solitude absolue.
RCF, Sarah Brunel.
Olivier Boutonnet, nous parlons de votre ouvrage « Le char de nuages, érémitisme et randonnée céleste ». Alors, que signifie ce terme « randonnée céleste » dans la Chine taoïste du 8e siècle ?
Randonnée céleste, c'est un terme générique qui regroupe deux genres littéraires, deux genres poétiques, que sont d'une part les randonnées chez les immortels, les poèmes de randonnée chez les immortels, et d'autre part, la marche dans le vide, les poèmes chantés de la marche dans le vide. Alors, ce sont deux genres poétiques aux origines différentes. Les randonnées chez les immortels ont connu différents motifs, ont servi différentes causes, la déploration d'un monde en déclin, à la louange de cour, en passant par la liturgie. La marche dans le vide, c'était plutôt utilisé dans le cadre rituel. Et sous les Tang, ces deux genres poétiques vont se réunir et être récupérés par donc les lettrés taoïstes d'inspiration Shangqing, précisément.
Alors cette expression « randonnée céleste » ou même « marche dans le vide » nous paraît assez étonnante à nous occidentaux. Qu'est-ce que ça veut dire « randonnée céleste » ?
Eh bien, jusqu'à présent, on considérait que c'était un jeu littéraire qui, effectivement, dépeignait des voyages dans les astres, auprès de la cour des divinités, on passait de la grande ourse à l'étoile polaire, au milieu de paysages faits de jade magnifiques et de lumière. Et puis, l'œuvre de Houyin nous a permis de découvrir autre chose. En fait, Houyin est le seul auteur à ce jour connu pour lequel on peut mettre en perspective à la fois sa poésie sidérale, donc les randonnées célestes, et ses traités à vocation didactique. Et en fait, cette mise en perspective a mis à jour un double fond dans cette poésie sidérale. Et on s'est aperçu qu'il ne s'agit pas, s'agissait pas simplement d'un simple jeu littéraire, mais que ces randonnées célestes constituaient un support de pratiques méditatives et visionnaires, qui en fait opéraient une vertu performative sur les chairs de l'adepte.
C'est-à-dire qu'il transformait, qu'il y avait un effet sur le corps aussi.
Oui, absolument. C'est-à-dire que l'adepte arrivé à un certain rang dans la hiérarchie sacerdotale avait accès à des enseignements. Il était initié à une géographie sacrée. Et il devait, par la vision, reconstituer ce monde En fait, on parle d'un monde imaginal qui est au carrefour de l'intériorité et de l'extériorité. Donc, recréer ce monde à partir de la géographie sacrée à laquelle il avait été initié, et puis visualiser son voyage dans ce monde en respectant un langage et des codes parfaitement établis et rigoureux, dont le respect de ces codes devait permettre justement la transformation des chairs.
Alors nous avons un peu de difficulté à nous représenter ce que peut être ce monde. S'agit-il d'un monde qui est un peu à l'image de, ou en tout cas inspiré de notre monde terrestre, ou s'agit-il d'un autre monde qui est, on va dire, de nature plus spirituelle, avec de la pensée
Alors, ce monde est fait de symboles yang, parce qu'en fait, tout l'enjeu du projet sotériologique consistait à raffiner les portions de yin que l'on porte en nous par le yang. Et donc, ces pratiques visionnaires, en fait, il s'agit donc de sublimer la corporéité par la médiation de l'image intérieure. Et donc, cette image intérieure, pour pouvoir œuvrer, devait respecter des codes. Ces codes étaient de nature yang. Et donc, la description de ces voyages est assez détaillée, très détaillée, parce qu'il s'agit de visualiser des détails, et tous ces détails relèvent de codification yang précisément. Ce qui caractérise ces codes, c'est l'imputrescibilité, par exemple. On a des bâtisses en jade, en saphir. On a des mers de jade, des mers de perles. Cette idée de l'imputrescibilité que l'on va visualiser
va contribuer. Quelque chose qui ne peut pas se décomposer,
qui ne peut pas se décomposer. Voilà, oui. De la même manière, on va découvrir toute une esthétique de l'incandescence dans ce voyage où l'adepte va devenir sans cesse plus lumineux jusqu'à rivaliser avec l'éclat du soleil et de la lune. Et donc, il va décrire des paysages faits de jade, fait de lumière, et en visualisant ça, en fait, il raffine le yin par le yang, précisément. Et tout ce récit de voyage mystique dans les astres respecte ce principe, relève de ce procédé.
Alors, quelle est la place de la poésie, pour terminer? C'est-à-dire, est-ce que cette écriture poétique ou cette voix poétique ferait une voie, justement, d'accès au divin, comme ça peut être le cas, je fais un parallèle qui peut-être n'a aucun sens, mais j'ai l'audace de le faire, chez Saint Jean de la Croix, par exemple, ah. Où on a une poésie aussi qui nous ouvre à quelque chose de, on va dire, dans l'exploration de la nuit. Alors, est-ce que vous pourriez en dire deux mots pour terminer?
Alors, la poésie, déjà, favorise la mémorisation et donc favorise la récitation. Ces exercices méditatifs se fondaient sur la récitation. Cette dimension performative, plutôt que de dire qu'en dire c'est faire, on peut dire qu'en réciter c'est transformer, parce que c'était cette idée-là. Ensuite, la poésie chinoise permet une dimension allusive très importante. Et donc, en récitant les vers de cette poésie-là, ça vous ouvrait un monde beaucoup plus large, propice à la visualisation. Et on pourrait dire tellement de choses sur le choix de la poésie, mais aussi parce que cette poésie s'inscrit dans une tradition littéraire, au carrefour de la spiritualité et de la littérature.
Merci infiniment, Olivier Boutonnet. Avec vous, nous avons découvert aujourd'hui un monde poétique et spirituel passionnant, celui de la Chine ancienne, de cette longue tradition du taoïsme. Votre livre, Le char de nuages, Érémitisme et randonnée céleste, chez Wu Yun, taoïste du 8e siècle. Sans la vigilance et la compétence de Pierre-Henri Paget à la réalisation technique, cette émission ne pouvait avoir lieu.